friend. Alors, la pratique de yoga nidra, je vous expliquerai ce que c'est après, vraiment, avec le déroulement, l'origine, tout ça. Et pour vous situer un peu, qu'est-ce qui se passe grâce au yoga nidra? Cette pratique, elle mène à une certaine équanimité. C'est quoi l'équanimité? Eh bien, c'est un état où l'on apprend à être témoin et où l'on peut s'élever au-dessus des dictateurs du corps et de l'esprit. Alors, c'est-à-dire s'élever au-dessus de la bipolarité qui nous fait souffrir, le plaisir, on en veut plus, on n'en a pas assez, ou la douleur, l'éloge ou le blâme. On oscille constamment entre l'un et l'autre, la célébrité ou le déshonneur, le gain ou la perte. Ce sont les 8 pôles dans lesquels on oscille constamment et qui nous font souffrir. Je rentrerai plus en détail dedans plus tard, peut-être si on a le temps. On peut rajouter aussi donc la faim ou la soif, ça aussi. On peut rajouter le froid ou la chaleur, trop froid, trop chaud. Tous ces inconforts du corps. On peut rajouter la douleur ou le plaisir, mais plaisir très fort. Je l'ai déjà cité quand même, de toute façon. Alors donc, ce qui se passe, c'est que on arrive à un état où on est en pleine concentration, mais aussi en grande décontraction. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que la plénitude produit des endorphines qui calment la douleur, littéralement. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais ce qui nuit à l'homme est aussi ce qui le soigne. Alors, Ramakrishna, un grand saint de la fin du 19e siècle, disait « Savez-vous ce que signifie vivre dans ce monde sans s'y attacher ?» Je parlais d'attachement hier. Voilà. « Il faut y vivre comme la limande qui vit dans la vase, mais n'en est pas salie. » C'est ça que nous apporte le yoga nidra. Finalement, on se fait une couche qui va faire glisser tout ce qui n'est pas bienvenu. Mais ça ne veut pas dire qu'on est sans attachement. Ça ne veut pas dire qu'on a tout autant de sagesse pour aimer et encore plus, puisqu'on est capable de donner, d'échanger, de vivre l'amour, mais sans être attaché au point où c'est devenu une énorme souffrance. C'est ce qui arrive souvent. Et alors, ce qui se passe, c'est que le yoga nidra, donc, il nous aide à nous brancher de cette façon. Vous voyez, dans le bouddhisme, on dit que la souffrance et la douleur, c'est un peu comme une vache qui n'a plus de peau. On lui a enlevé sa peau. Et alors, elle est à vif. Et tout ce qui la touche, le vent, le soleil, l'eau, tous les gens, elle hurle, elle crie, elle souffre. Et finalement, c'est ça qui nous arrive. On est devenu très, très sensible, à tel point que tout nous attaque. Parfois, quand on est stressé surtout. Et le yoga nidra, c'est comme si on rajoutait une couche d'huile qui va finalement amortir le choc. C'est étonnant parce que on a l'exemple de, je crois que c'est Micheline Flack qui en parle dans son livre Yoga Nidra en français. Elle a traduit le livre du grand maître Satyananda Sarasvati. Alors je vais écrire son nom parce qu'il est très important. Swami Satyananda Sarasvati. Voilà. Vous pouvez remercier ce grand homme parce que c'est lui qui a commencé à enseigner le yoga nidra. Je ne sais pas si il est plus vieux que ça, Swami Sarasvati, Satyananda. Et donc, c'est un homme du XXe siècle. C'est un élève de ce grand maître en Inde. Comment il s'appelle qui a fondé l'ashram à là-bas, Rishikesh. Oui, comment ça s'appelle Shivananda. C'est un élève de Shivananda. Shivananda qui a fondé des écoles partout, voulait enseigner le yoga, la méditation. Et ce grand homme, Sarasvati, a fait la même chose. Il a fondé l'école de Bihar. Bihar. C'est au nord de l'Inde, mais c'est ce côté, c'est à l'est. C'est pas dans les montagnes, c'est à l'est. Enfin, je ne sais pas si c'est les montagnes.
La plaine,
hein, c'est ça, oui. Et c'est une école très connue parce que ce qui est magnifique dans cette école, que j'aime beaucoup, j'ai étudié à partir de cette école. Parce que mon professeur Mukunda était un élève de cette école. Parce que, comme son maître, Sri Swami Satyananda Sarasvati, a décidé de faire en sorte que il peut montrer les bénéfices du yoga. Et donc, il a fait des expériences. Il a choisi plusieurs sujets en groupe et leur a fait vivre différentes pratiques de yoga. Il a été ensuite... Les docteurs de l'Australie, ils sont tout près, étaient intéressés à ce qu'ils faisaient. Ils sont venus et ils ont fait une équipe ensemble. Si bien qu'ils ont mixé la pratique du yoga, l'Ayurveda, tout ce qui venait de l'Inde, et la pratique de la médecine conventionnelle occidentale. Et donc, ces médecins occidentaux proposaient des malades du cœur, par exemple. Et Satyananda Sarasvati proposait des pratiques pour les malades du cœur, pour ceux qui sortaient d'opérations du cœur, par exemple. Des personnes qui étaient diabétiques, ils proposaient une autre pratique. Des personnes qui avaient des problèmes lymphatiques, ou le cancer, ou l'obésité, ou les mal de dos, enfin des tas de conditions qui font que ils travaillaient chaque groupe séparément pour leur donner une pratique différente et pour voir les résultats. Et de là, il a écrit des livres. Il y en a à peu près une vingtaine. Moi, j'en ai à peu près 10 à la maison. C'est extraordinaire.
Et tout ça, c'est du yoga nidra.
Non.
C'est en général.
En général.
D'accord.
Mais en plus, donc, il s'est dit, il faut une pratique de relaxation. Parce que ces Occidentaux, ils ne savent pas se détendre. Et il avait appris dans l'Himalaya beaucoup de pratiques tantriques. Les pratiques tantriques sont souvent assez ésotériques et difficiles à comprendre, surtout pour nous, les Occidentaux. Et donc, il avait l'intelligence de pouvoir créer quelque chose qui soit digérable pour nous et qui soit possible, nous les Occidentaux. Et donc, il a créé une pratique qu'il a appelée yoga nidra. Nidra, ça veut dire sommeil, donc le yoga du sommeil. Mais attendez, ce n'est pas le même sommeil que celui dont vous faites l'expérience, la nuit. C'est un sommeil conscient. C'est pour ça que je vous dis, restez conscient, etc., le plus possible. C'est très difficile. Parce que je vais effacer ceci. Pour faire un petit tableau et vous expliquer ces états. Parce que c'est très important dans le yoga nidra de comprendre dans quel état êtes-vous. Alors, si j'avais un Kleenex, ça serait très bien. N'importe quoi pour... Voilà, merci. Merci. Donc, j'enlève le nom. Alors, le meilleur livre qui explique ce dont je vais vous parler, c'est Mandukya Upanishad. C'est un Upanishad. Je vais l'écrire. Mandukya, je crois que c'est la grenouille. C'est dans le Mandukya, Mandukya, Upanishad. Hein? Voilà. Donc, ce Mandukya Upanishad, c'est un petit livre, parce qu'il y a une cinquantaine de versets, c'est tout. Donc, voilà. Et donc, il y a 25 pages, quoi, un truc comme ça. Enfin, un peu plus, mais il est assez fin, je l'ai à la maison. Swami Rama, voilà un autre grand maître. Et lui, il est venu, il est allé aux États-Unis. Pour enseigner le savoir qu'il avait. Et c'est lui qui a donc bien expliqué pour nous les Occidentaux de quoi il s'agit dans le Yoga Nidra. Donc, ce dont il parle, c'est que il y a un état de l'esprit qui a des pensées et un état de l'esprit sans pensée. Voilà deux colonnes. Ici, il y a un état de l'être qui est identifié au jeu, à moi, et il y a un autre état qui n'est pas du tout identifié au jeu, qui n'a aucune identification. Vous comprenez? Donc, c'est là où on voit que quand j'ai des pensées et que je suis identifié au jeu, c'est la vie conventionnelle, l'état de veille. Voilà, c'est quand vous vous réveillez, bon ben, c'est... voilà, vous êtes là. Quand vous commencez à vous endormir, le livre tombe, et puis vous faites des rêves, vous avez encore des pensées, bien sûr. Mais vous pouvez très bien être le lapin, la mère, n'importe. Donc c'est celui-là. C'est cet état-là. Il n'y a plus de jeu, mais il y a encore des pensées. Et quand vous êtes profondément endormi, eh bien, il n'y a plus de pensées. Et il n'y a plus de notion de jeu non plus. Donc c'est ici, le sommeil profond. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est là que c'est excitant. Mandukya Upanishad en parle. Ici, il y a quelque chose qui est sans pensée. Mais on a toujours la notion de jeu, mais sans penser. Imaginez, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, c'est un état, si vous voulez, de conscience qui chapeaute le tout, mais sans penser. C'est ce qui arrive dans les méditations de grands maîtres où... ils n'ont plus de pensée, ils n'ont plus d'objet de l'esprit. Non, parce qu'ils savent qui ils sont. Donc, ça s'appelle, cet état s'appelle Turiya. Et quand Patanjali parle de cet état dans les Yoga Sutras de Patanjali, Vibhutipada, lui, il dit qu'on est en ça me reviendra samyama, voilà, il parle de l'état de samyama. Et l'état de samyama, c'est celui dans lequel on vous met en yoga nidra.
Et dans le tableau, là, c'est Turiya ou pas?
Alors, c'est un peu différent. C'est Samyama, c'est un état qui est là. Voilà. Et c'est celui dans lequel on se trouve, avec le yoga Nidra. Alors, je vais juste mettre Nidra. Et donc, il couvre tout. Et qu'est-ce qui se passe donc? C'est que cet état de Turiya,
On a remarqué, quand on regardait les fréquences cérébrales de Swami Rama, il a dit, moi, quand je suis dans le sommeil, je suis conscient et je sais ce qui se passe. Quand je suis dans le rêve, je suis conscient et je sais ce qui se passe. On lui a dit, non, mais c'est quoi ça? Alors il a dit, ben, on va essayer. Et il s'est mis sur la table et les scientifiques ont commencé à, voilà, à boire, à manger, à parler, tout. Et pendant ce temps, on regardait où il en était. Il passait de l'état de veille à l'état de rêve, ensuite de l'état de rêve à l'état de sommeil. Voilà, et ensuite il s'est réveillé à la fin de l'expérience. Et on lui a dit alors, ben, il a dit, voilà, quand j'étais dans la veille, bon, ben, j'étais avec vous, etc. Et quand j'étais dans le rêve, à ce moment-là, vous étiez en train de dire ça, de faire ça, et de, etc. Ils ont dit, ben oui, c'est vrai. Et il a dit, après, quand je suis passée dans l'état de sommeil, mon état de tout rien, il a été capable de voir, vous faisiez ça, vous disiez ça, et, etc. Ils ont dit, mais oui, c'est vrai. Donc, il était présent. Il était conscient. L'état de Turiya, la conscience existe. C'est ça la différence. La conscience existe, mais on appelle ça donc une conscience universelle, si vous voulez. Elle chapeaute tout. Turiya, c'est, si vous voulez, c'est une conscience qui chapeaute la veille, le rêve et le sommeil. Et qui est consciente. C'est comme un ange gardien, si vous voulez. Et donc, Swami Satyananda a décidé de proposer une pratique qui puisse mettre les personnes dans cet état, plus proche de Turiya. Et il l'a appelé le Yoga Nidra, parce que c'est quand même proche du sommeil. Et vous le voyez quand vous le vivez. Hein? Bon, donc, ce qui se passe, comment voir dans quel état vous êtes? On l'a vu avec des appareils. Hein? Donc, quand vous êtes dans l'état de veille, c'est de 12 fréquences, de 12 à 32 Hz. Et c'est donc, c'est le nombre d'oscillations par seconde. C'est comme ça qu'on le trouve. L'état de rêve, c'est de 7 à 12. C'est là, l'état de veille, c'est bêta. Ça s'appelle bêta. L'état de rêve, ça s'appelle alpha. Fréquence alpha. L'état de sommeil profond, c'est delta. C'est une fréquence qui est de 1 à 3. Alors donc, de 3 à 7, il y a une autre fréquence qu'on appelle θ et qui est entre le rêve et le sommeil. Et c'est donc, je vais la mettre ici, θ, je pense que ça s'écrit comme ça, et c'est de disons 4 à 7. Voilà, bon, non, 3. Vraiment, c'est bas. 3 à 7 de fréquence. Alors, quand vous rentrez dans le Yoga Nidra, nous commençons la pratique, vous passez de l'état de veille à l'état de rêve. Et vous passez de 12 à 32, vous passez de 7 à 12 en fréquence. Ensuite, donc, je vous accompagne, vous passez dans l'état θ, de 3 à 7.
Mais à quel moment?
Pardon?
À quel moment?
Alors justement, on va regarder le déroulement.
Je ne peux pas dire précisément quand chacun y rentre, parce que c'est très individuel. Mais ça vous donne une idée du parcours que vous vivez.
Et Touria, c'est quoi la fréquence?
Qui?
Touria.
Touria.
Il y a une fréquence ou c'est zéro?
Alors, justement, là, on ne sait pas trop. Il y a donc les fameux chercheurs en Californie qui ont reçu ces moines bouddhistes et qui ont pris leur fréquence. Et ils ont remarqué que eux, ils étaient en fréquence gamma. Alors, j'ai plus de place, je vais en enlever. Ils étaient en fréquence gamma. Et ils ont appelé ça, c'est gamma, parce que gamma, ce sont des fréquences qui sont dans les mille, millièmes. 1000, 2000, 5000, 10 000. Ah, c'est très rapide. Et la fréquence gamma, donc de 1, de 1000 à plusieurs milliers. C'est une fréquence dans laquelle le cerveau se met quand il vibre dans tout le cerveau en même temps. Et ça donne un état de plénitude très, très profonde. Et on a remarqué que ce qui se passe dans la fréquence gamma, ça se passe aussi dans la fréquence alpha. C'est-à-dire qu'en alpha, on a remarqué que plusieurs parties du cerveau finissaient par travailler ensemble, mais en synchronicité. C'est là la bonne chose. En synergie. Donc, il n'y avait pas de perte d'énergie.
Quels que soient les rêves.
Oui. Oui, quand on rentre dans cet état.
Rêve ou cauchemar, alors
Oui. Ça, je ne peux pas dire exactement où sont les cauchemars, mais ça, c'est dans l'état, cet état de 7 à 12.
D'accord.
C'est certain. Alors, je voulais vous lire quelque chose qui nous montre que il y a des grands maîtres occidentaux qui l'ont trouvé. Enfin, je parle de Gurdjieff. Et c'est étonnant parce qu'il dit quelque chose qui me le rappelle un peu. Parce qu'il parle de l'attention. Et c'est ça qu'on vous demande de faire en Yoga Nidra. On vous demande de rester attentif. Vous écoutez ma voix. Et vous suivez ça. Il n'y a rien d'autre. C'est un état de sophronisation. Un peu comme d'autres états où on est dans une conscience modifiée.
Hein? L'hypnose.
Un peu, exactement, voilà. C'est un peu différent, mais c'est un peu similaire aussi, parce que c'est le même état de sophronisation. L'attention permet l'élévation du taux vibratoire du mental face à l'effort de volonté et l'éveil des centres émotionnels. Pour extraire l'énergie cachée à l'intérieur de la matrice, la faire passer d'un état brut, un état de veille, à un état raffiné, liquide, gazeux, incandescent, lui, bon, il a une façon de décrire les choses, en la maintenant sans parasitage du cerveau et des émotions, grâce à l'attention. Diviser sur l'intériorité et l'extériorité, c'est-à-dire que vous entendez quand même ma voix, vous entendez les sons, il y a tout ça, quoi. Hein. Il y a cet équilibre. C'est élever en soi une présence libre, libre de la foule des pensées. et des sentiments, et accéder peu à peu au seuil du rappel de soi. C'est ça, Touya. C'est le seuil du rappel de soi. En arrêtant les hémorragies d'énergie inutiles, je dispose d'un capital énergétique plus grand pour créer un lieu de résonance, un lien qui deviendra lieu d'oasis et de paix. Bon, ça en dit suffisamment. C'est intéressant que Gurdjieff en parle comme ça. Il ne parle pas de Yoga Nidra, mais il est en train d'écrire quelque chose que nous vivons dans le Yoga Nidra. Parce que le but donc du Yoga Nidra, c'est de vous permettre de prendre de la distance par rapport à ce qui vous écorche dans la vie. Et les gens qui sont en stress post-traumatique, quand ils font le Yoga Nidra, ça va beaucoup mieux. Et c'est un peu comme EMDR. Et Micheline Flack parle dans son livre, dans la traduction du livre de Swami Sarasvati, qui a écrit le livre sur le Yoga Nidra, mais en anglais, elle l'a traduit en français, vous pouvez le trouver, vous pouvez l'acheter. C'est par l'école de Bihar, bien sûr. Et là, elle raconte qu'elle enseignait des classes de Yoga Nidra en Inde, et qu'un jour, il y a un repris de justice qui sortait de prison, il avait fini sa peine, et il a dit, ben, je veux venir à vos classes du Yoga Nidra. Elle l'a laissé. Eh bien, après un certain temps, je ne sais pas combien, eh bien, il s'est senti beaucoup mieux. Et petit à petit, tout s'est gommé. Tout ce qui était difficile à vivre, toutes les mémoires de tout ce qu'il avait vécu en prison a été gommé grâce au Yoga Nidra. C'est fascinant. C'est quelque chose, on n'a pas le pouvoir de le faire. Ça se fait quand l'esprit est dans cet état. Alors, maintenant je vous parle du déroulement. Parce que ce déroulement, c'est Swami Sarasvati qui a décidé de le faire comme ça, en choisissant certaines choses de l'aspect tantrique de pratique, et d'autres qu'il comprenait, qu'il pratiquait, etc. Bon, donc, il y a la relaxation au début, hein, relaxation, on apprend à se détendre, laisser le corps s'alourdir, ça on connaît, nous les Occidentaux. Ensuite, il y a la résolution. Ça, on connaît moins bien. Parce que, bon, on prend des bonnes...
C'est difficile, je trouve.
Oui, c'est difficile. Pas trop à dire. Parce que cette résolution, il ne faut pas qu'il y ait un négatif. On ne dit pas je m'arrêterai de fumer.
Si, on dit ça.
Je ne fumerai pas. On ne dit pas je ne fumerai pas.
On dit je m'arrêterai de fumer.
Mais alors...
Que ce soit dans le présent...
Il faut que ce soit dans le présent, c'est ça la différence.
Je m'arrête de fumer.
Je ne fume pas. Ah non, c'est un négatif. On ne peut pas le mettre. J'ai une disposition d'esprit qui m'aide à faire face.
Je résiste à la cigarette.
Non, parce que pendant le yoga nidra, tu ne peux pas résister.
Je me libère de la cigarette, je me libère.
Voilà,
parfait.
Merci. Ah. Voilà.
D'accord. Ouais, mais hein? C'est difficile, enfin, je sais pas comment le dire. Quoi. Oui.
Et
je me libère.
C'est très subtil.
Oui, et vous pouvez dire aussi, au moment où je me détends et je sens ma respiration, je me sens plus ouverte. Ou je me sens plus libre. Où je me sens bienveillante, où je me laisse.
Par rapport à une souffrance alors. pas une difficulté.
Non, on parle plutôt de choses qui sont positives et qui sont dans la conscience universelle. Et qui ne sont pas donc des souffrances qui viennent de l'ego. Et qui viennent du petit... de l'état de veille. Ce sont des aspirations.
Oui, c'est matériel.
Des aspirations.
Parce que tu parles de la cigarette, c'est matériel.
Et bien justement, on ne parle pas de la cigarette.
Ah. C'est à partir d'un besoin.
La cigarette, oui, elle fait.
Tu peux dire si tu te sens. Ben, si toi, tu te sens angoissé, ou tu vis un état d'angoisse, en ce moment, hein, c'est un exemple. Je me sens en toute confiance.
Voilà. L'univers m'apporte.
Comme l'antidote, quoi.
Voilà, c'est ça.
Là, c'est. Ah, je me sens en toute confiance. C'est vraiment hein, ce que oui. Tu te souhaites.
Oui.
Ce que tu te souhaites.
D'accord.
Voilà, donc c'est la résolution. On l'a dit trois fois. Afin de
et
vraiment.
Pourquoi, tout à l'heure, tu nous as dit je porte mon attention sur la respiration.
Oui. Oui, en portant l'attention sur ma respiration, par exemple, je me sens ouverte.
Ah, il n'y avait pas de fin.
Généreuse ou quoi que ce soit.
D'accord.
Quelque chose que tu veux fructifier.
D'accord. Non, mais parce que moi, je me suis arrêtée, je porte mon attention sur la respiration.
Tu peux.
Mais c'est factuel, ça. C'est,
Oui, parce qu'il faut parler de quelque chose que tu vis maintenant. Je porte toute mon attention sur ma respiration. Voilà, c'est parfait. Parce qu'après...
Si on a l'esprit qui part à droite à gauche par rapport à ça.
Ah ben ça, on n'en parle pas dans la résolution.
Oui, non mais ta résolution, tu l'as fait par rapport à une difficulté.
Ben, si tu as l'esprit qui part à droite à gauche, tu peux dire, je me sens sereine.
Voilà.
Et pourquoi tu nous as proposé « Je porte mon attention sur la respiration »
Parce que je sentais ma respiration. Et donc je m'étais dit « Je porte mon attention sur ma respiration. » Et je remarque ma respiration, l'inspire, l'expire. Et je la suis. Voilà, c'est tout. Bon. Ensuite, après la résolution, on passe au corps matériel, au corps, voilà. Et donc on fait un équivalent du scan corporel, dans la pleine conscience c'est ce qu'on pratique, dans Vipassana on fait aussi le scan corporel, on appelle ça aussi la rotation de la conscience. Et ça se fait toujours de la sorte que je vous ai fait connaître, c'est-à-dire on commence par le pouce de la main droite. On monte le long du bras et ensuite on descend le long de la taille et de la jambe droite et le pied droit. Voilà.
Pourquoi on fait ça vite ? Parce que tu
parce que on veut pas que tu penses. Donc, ce sont des pratiques qui vont rapidement parce que tu n'as pas le temps de penser et on te demande juste d'être avec ce qui est énoncé. Parce que aussi, qu'est-ce que ça fait ? Ça t'aide à flotter sur quelque chose. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a peut-être un endroit où il y a un accident. Et l'accident revient, ça fait très mal. Eh bien, quand tu vas vite, finalement, tu n'as pas le temps de t'arrêter là-dessus. Tu continues. Et le cerveau va faire le travail nécessaire pour le gommer. Voilà.
Ça ne te donne pas le temps, effectivement, de mettre du discours là-dessus. Mm. De mettre du mental là-dessus. Tu vois, ça, tu vas sentir, ou pas, hein,
oui.
L'endroit cité. Mais si on s'attarde trop, tu vas y mettre du mental. Tu vas essayer de dire pourquoi, mais ça vient de où, tatati, tatata.
Oui, exactement.
Suivre, comment? Ben parce qu'il faut que j'amène ma attention.
Pardon?
Oui. Pousse.
C'est pour ça que c'est rapide, qu'on passe hop, rapidement du coq à l'âne.
Voilà. Voilà.
Pas que c'est le temps de te dire, ah, mais qu'est-ce que c'est, ça vient d'où, tata.
Oui, mais pourquoi on fait ça? Pour apprendre.
Ça déconnecte le cerveau de ce qu'il essaye de penser, de comprendre, de tergiverser, d'analyser et tout ça. Ça déconnecte l'analyse.
C'est ça.
Non, avant, pourquoi on fasse cette analyse?
Ce cours, vite. Cette façon.
Ouais. Pourquoi?
Pourquoi on le fait vite?
Pourquoi on le fait?
Pourquoi on le fait? Alors, ce qu'on a, ce qu'ils décrivent, c'est que notre cerveau, dans la zone où on a ces parties du corps énoncées, elles s'articulent l'une après l'autre, l'une à côté de l'autre. Il y a d'abord le pouce, ensuite il y a l'index, il y a le majeur, etc. Et ensuite il y a le bras, ensuite il y a l'épaule, ensuite il y a le côté. Et on a vu dans le cerveau que ça s'articulait comme ça, quand tu touches les différentes parties. Et donc, ils ont décidé donc de toucher chaque partie du cerveau une à une pour que ça fasse le petit train qui suit. Il n'y a pas de saute.
Oui, mais
c'est pas sa question, je crois.
Ah,
non.
Pardon.
Pourquoi on se met en cette scan si on n'a pas besoin de penser? Pourquoi?
Parce que c'est pas par le mental. Tu sais pas. C'est le chemin, c'est la sensation. Dès que tu vas mettre du mental dessus, tu vas court-circuiter quelque chose. Tu vas penser sur le truc. Ça va pas être quelque chose de totalement pur. Si ton mental s'en empare, ça va complètement modifier le phénomène.
Et ça ne sera plus ce que on cherche à te faire vivre dans un état alpha.
Donc on prend conscience de notre corps quand même.
Oui.
Mais on sait prendre vite pour
s'éloigner. Tu prends contact, je dirais.
Oui,
tu prends
contact.
Contact avec ce qui est cité, tu prends contact, donc tu ressens ou tu ne ressens rien. Parfois, moi je pourrais te raconter ce que j'ai vécu, oui, tu peux me permettre?
Oui, bien sûr.
Dans le premier scan corporel que j'ai fait, donc il commence par la droite, dans le protocole, on commence par la droite. Mais ça a été fulgurant, c'est-à-dire que là, ce que j'ai senti, c'est que mon côté droit avait été très, très, très meurtri. Et en fait, c'est tous les chocs que j'avais pris en escalade, en montagne et tout ça, mais qui étaient sourds, qui avaient été endurés, qui avaient été... Parce que montagne, là, tu n'es pas là, hein. Et là, dans cet état-là, tout ce que je n'avais pas pris en compte, une façon consolée ou un truc comme ça, tout est remonté, mais d'une force. Mais c'est pas passé par le mental, hein. J'ai pas eu le truc de me dire, ah oui, mais là c'est ça, c'est un mental. Nanana. D'un coup, hop, on a cité ça, quand on est arrivé à l'épaule, là, ah, douleur.
Oui, mais problème est là,
fulgurant,
hein,
tu vois.
On fait yoga nidra pour se mettre dans l'état de relaxation.
Oui, mais c'est comme ça, c'est en ayant contacté cette douleur que je n'avais pas, quand je me suis fait mal, j'ai eu la douleur, tu vois, mais cette douleur, ça te permet de la revisiter
mais
et
on reste
t'en libérer.
Voilà, parce que tu restes tellement décontracté que ça passe. Ça s'efface.
C'est ça. Et
de ton cerveau.
Libère. Moi, j'avais le bassin lors d'une chute et le matin, je sentais que c'était parfois bon, que je faisais une demande de yoga et tout ça. Du jour au lendemain, après cette séance de scan corporel, plus jamais j'ai eu une douleur. Parce qu'elle a été reconnue, elle a été accueillie, et dans cet état-là, justement, où il n'y a pas le jugement, où il n'y a pas ci, pas ça, tu vois, qui va ramener de la souffrance à une douleur, comme dirait Anne, la douleur, tu ne veux pas la nier, elle y est, mais la souffrance est optionnelle. C'est-à-dire que là, tu recontactes avec une douleur, mais le mental ne va pas rajouter quelque chose qui en ferait une souffrance. C'est-à-dire que tu revisites ça, tu l'accueilles, alors tu peux effectivement pleurer. Hein. J'ai beaucoup pleuré, oui. Et du jour au lendemain, j'étais libérée de cette douleur.
Et moi, ce que je comprends de la question, c'est que quand on fait le scan corporel en méditation, on porte toute son attention partie après partie, et on se pose un instant pour être dans une attention. On n'est pas dans le mental, on est dans l'attention à chaque fois. Et là, c'est assez lent. Alors que dans Yoga Nidra, ça glisse, c'est assez rapide.
Oui.
Donc, quand tu parles de scan corporel, est-ce que tu parles de Yoga Nidra?
C'est-à-dire que dans Yoga Nidra, il y a du scan corporel.
Oui. Je dirais que le scan corporel est une pratique qui est beaucoup plus ancienne que le Yoga Nidra. Et qui vient. C'est Goenka qui l'a remis au goût du jour. Au début du milieu du XXe siècle. Et la façon dont il l'a apprise, c'était plus lent et c'était avec un circuit un peu différent. N'empêche que les deux pratiques ont un peu la même idée.
Alors, Wanka, ça dégouline comme ça. Alors que MBSR et John Kabat-Zinn, ça part du pouce et
voilà.
Du pied. Ça,
voilà.
C'est encore deux choses différentes.
Mais ça ne fait rien, non. Que ça parte de la tête ou que ça parte des pieds, ça ne fait rien. C'est pareil. Mais la différence avec le Yoga Nidra, c'est que dans le Yoga Nidra, on va beaucoup plus vite. On a encore moins le temps d'analyser. Mais ça, c'est dur pour les Occidentaux. Je pense que voilà, le scan corporel, Goenka en a fait une technique qu'on fait en 10 jours et qui s'articule sur plusieurs étapes. Alors que dans le Yoga Nidra, c'est juste une pratique. Très rapide. C'est un peu différent, mais ça a le même but. De se connecter au corps matériel. Juste ça et rien de plus. Voilà. Donc, ensuite, on travaille après avec le corps énergétique, le deuxième corps. Pranamaya Kosha. Pour ceux qui connaissent un peu. Donc, ce deuxième corps, le corps énergétique, c'est le corps de la respiration. Hein, prana, le prana, la respiration. Et donc là, l'exercice qui est choisi, donc, c'est de compter ses respirations. Et ça, c'est tantrique, on te le fait compter à reculons. Parce que quand tu comptes à reculons, ben, tu te mélanges les pédales et on s'endort et on lâche. Il y a quelque chose qui lâche. Hein?
Oui, c'est redoutable.
Ah oui, hein? c'est très dur.
Tu l'as fait, ça?
Oui.
Tu dors déjà.
Voilà, donc c'est une pratique. Alors, moi je rajoute un petit encas toutes les 10 respirations, je teinte la clochette. Parce que ça remet un peu en éveil hein, les gens. Parce que sinon, ils sont complètement partis, et puis après, on les a plus jusqu'à la fin. Donc là, c'est raté. Oui.
La pensée de la
clochette. Tu l'as fait ça?
Oui.
Alors.
Ouais. Voilà. Donc, cet exercice va vous contacter au pranamaya kosha, le corps énergétique. C'est celui qui anime, hein, qui vous anime à un plan déjà plus subtil que le corps grossier physique.
Mais c'est toujours une focalisation. Une attention portée.
Exactement. Oui. Ensuite, nous passons à la sphère émotionnelle. Alors, Manomaya Kosha, hein, la sphère émotionnelle et les pensées, tous les systèmes qu'on utilise avec le cerveau et cette sphère émotionnelle, donc, quand je vous guide là-dedans, je vous dis de voir les images dans votre troisième œil, un cheval blanc au galop, le lever du soleil, le cyprès. Et alors, ici, là-dedans, comme vous êtes déjà avec une pellicule, une couche de protection, j'en rajoute un petit peu. Une croix dans un cimetière, une bombe qui explose, puis après je retourne.
Ça, tu
m'en as pas fait. Ah, ben oui, non, mais ça dépend. J'en ai donné d'autres. Hein.
Mais en revanche, ce qui m'a perturbée, moi, c'est de la visualisation. Parce que moi, des fois, j'arrive pas à voir une image, quoi.
Oui, ça arrive. Ne te fais pas de soucis. Dans ce cas-là, tu peux voir juste.
J'ai pas d'image.
Des formes, un peu comme de l'huile sur de l'eau,
et du coup,
en couleur.
C'est plus le mental du coup qui prend le pas, parce que je sais, bon,
oui.
Bon, je dis cheval blanc, crinière.
Voilà, donc tu vois le cheval blanc, ben, tu l'imagines. Oui.
J'ai un discours sur ce cheval.
Oui, je comprends.
C'est vrai que c'est moins facile pour les. Personne.
Moi, j'ai pas une mémoire
visuelle.
J'ai pas une mémoire
visuelle. Oui. C'est moins facile parce que c'était obligé de.
C'est ça. Et là.
C'est gênant, ça.
Je n'ai pas de réponse. Pas de réponse.
Des fois, j'ai la visualisation, mais des fois, le coucher de soleil, pourtant, c'est d'une simplicité.
Oui.
Je force pour apercevoir un peu des. Mais
oui.
J'avais pas de.
Je connais une autre personne qui est comme ça.
Oui,
et
on peut ne pas visualiser.
Ah oui.
On peut avoir du mal à visualiser.
Ah, bien sûr.
C'est ce qu'on apprend aux enfants à l'école. On leur dit, vous êtes. Apprenez. Alors, y en a qui. Je dis, vous avez le choix. Hein, vous pouvez faire. Puis il y en a qui font plusieurs choses. De voir, ils ont une mémoire visuelle, une mémoire auditive,
c'est
une mémoire.
C'est ça.
Voilà.
Ils ont et besoin d'écrire, ils ont besoin, je dis, vous, c'est chacun la sienne, ou chacun les siennes. Mais je me demandais si c'était pareil là.
C'est Il y a aussi, oui, des disparités, des différences.
Oui, mais il n'y a pas d'impact sur le,
non.
Sur le processus.
Non, aucun impact. Et c'est pour ça que je rajoute des sons. Tu en as entendu des sons
pas
aujourd'hui? Tu es déjà parti? T'as pas entendu le bateau, la rame, la voile dans le vent, le drapeau, tout ça?
Eh ben non, j'ai pas la mémoire auditive, tu vois. J'ai pas, non, j'entendais pas dans ma tête le.
D'accord. Et les odeurs?
Non, moi c'est plutôt discursif que.
Discursif, d'accord.
Ça, c'est plus. Ouais.
Mais ça, bon, ouais, ça m'a pas gênée, mais.
C'est plus, voilà, c'est moins facile, du coup.
Oui.
C'était pas un flash, c'était
pas. De pouvoir,
pas,
effectivement, vivre l'expérience qui est proposée dans effectivement, des images qui défilent comme ça, tu vois.
Oui,
j'ai pas le
des
film.
Des associations.
Oui.
Mais si vous avez mis les mots,
oui.
C'est possible.
Oui, moi je mets des mots.
Mais
je peux avoir une image, mais c'est pas.
C'est vrai que je connais une personne, elle est tellement dans cerveau gauche, analytique, que quand je lui dis cheval, elle voit pas le cheval, elle voit ses achevés à elle.
Non, mais moi même pas.
À toi même pas, voilà.
Je vois pas de mots.
25% des gens apparemment sont comme. Non.
Ah bon?
Oui. Je ne vois pas.
25%.
Ouais. Et les autres, ils peuvent visualiser. Ils voient les images. Ouais. Si tu mets. Si tu... Ouais. Mais c'est peut-être par les mots écrits, ou bien de voir les lettres, ou juste pour se dire dans le cerveau.
Ouais.
Et après, si je vais dire la scène, je les vois quand je dis. Mais il faut que je me dise.
Et là, est-ce que j'ai loupé une étape encore? On parle de sphère émotionnelle.
Oui.
Par la visualisation.
Non, c'est visuel.
C'est deux choses différentes.
C'est comment voir les choses dans le cerveau.
Non, mais dans le déroulement. Tu disais que dans le déroulement du.
Oui, alors là, on touche à la sphère émotionnelle. Parce que ce qu'on cherche à faire, là, c'est que il y a des associations. Je vous dis un cyprès. Il y a des gens qui associent ça à un cimetière. Et il y en a d'autres qui vont associer ça aussi près qui est devant leur maison de vacances. Et chaque chose dont je parle va être une association pour vous. Et ça va être une association à quelque chose d'agréable ou de désagréable. Mais ce qui est particulier dans le yoga nidra, c'est que vous n'avez plus, vous avez une certaine dose d'équanimité où vous n'êtes plus ballotté dans les polarités. Vous comme j'ai dit tout à l'heure. C'est, vous êtes plus en équanimité. D'accord ? Et je peux rentrer plus dedans après, parler d'équanimité, parce que ça a l'air d'être quelque chose d'un petit peu pas très clair pour vous. Hein, je rentrerai dedans après. Hein ?
Moi, c'est la méditation, c'est le propre de la méditation de te faire de t'amener à l'équanimité.
Oui.
C'est le but, oui.
Oui, bien sûr. Mais le yoga nidra te fait aller beaucoup plus vite. Parce que
si tu dors pas.
Si tu t'endors pas. Mais il est possible que tu entendes quand même pendant que tu dors. Mais enfin, là, je sais pas. Ça dépend de la profondeur de ton sommeil.
Je ne comprends pas les mots. I don't understand the what is in English?
Pardon?
Les mots. Je comprends pas. I don't understand the word equi.
Équanimité. Oui, je l'écris.
C'est pareil en anglais.
J'enlève ça. Hein.
Oui, oui, je comprends maintenant.
T'as compris ?
Oui,
ah oui, d'accord. Équanimité. Bon, d'accord. Mais c'est vrai que c'est un mot bouddhiste. Hein. C'est, donc, oui, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Hein. Bien sûr.
C'est d'être dans la balance qui est au milieu. Quoi, qui
oui,
est,
oui, oui. Entre les deux polarités. Juste au milieu. Voilà, donc j'en parlerai tout à l'heure un peu plus. Oui. Donc, dans cette partie de l'exercice, je vous dis des tas de choses qui vont faire remonter des perceptions, des sensations, des mémoires, des associations et des tas de choses.
Et ce discours, voilà. il est formaté ou tu inventes une
Non, j'invente.
Chacun la sienne.
Chacun la sienne.
Oh, d'accord. Non, mais je ne sais pas, comme il fallait commencer par le pouce droit, je me dis peut-être qu'il y a des matières.
Ah oui, non, mais là, non, tu fais ce que tu veux. Voilà, donc je décide quelle est la dose que je vais vous mettre de choses assez catastrophiques. J'essaye de ne pas trop en mettre, pas beaucoup, parce qu'il ne faut pas que la personne sorte de cet état. Hein. Il faut qu'elle y reste et que ça reste bien lisse. Donc, dire beaucoup de choses qui sont lisse.
Et d'une voix égale.
Oui. Oui, c'est vrai que les maîtres, ils ont une voix assez égale et moi, j'ai quand même une voix assez scandée.
Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était bien...
Égal. Oui. Ah, d'accord. Bon.
Du coup, c'était plus facile de rester...
Ah oui, oui. Donc je vais faire attention d'avoir une voix moins scandée et plus égale. Alors, donc ça, c'est la sphère émotionnelle. Ensuite, il y a la sphère de l'intuition. Et dans la sphère de l'intuition, il y a des symboles et des archétypes. Et c'est là où je vous ai mis, par exemple, aujourd'hui, je crois que vous étiez dans un bateau, et puis il s'est envolé, c'est ça ?
Oui, et c'était Saint-Exupéry, c'était la rose et le...
Ah oui, oui, c'est ça, vous êtes envolé sur une autre planète.
Les étoiles.
Voilà, les étoiles, la lune, oui, la rose et le mouton, tout ça, voilà, j'avais jamais dit ça. Moi, il faut que ça me sorte comme ça. Hein. Donc, voilà, donc là, il y a des symboles et des archétypes qui vous permettent finalement de créer une réalité pour vous qui va venir se superposer ou s'imposer à la place de choses qui sont délétères et qui n'ont plus lieu d'être dans votre cerveau. J'ai gommé et après on écrit quelque chose dessus. Un autre symbole, un autre archétype, des choses comme ça. Ça peut être un dieu, ça peut être un maître. Ça peut...
C'est quelque chose de connu alors ?
Pas forcément, non, c'est ce qui vient de moi.
Donc c'est ton imaginaire.
Voilà. Vous pouvez devenir une vache rose qui est en train de voler avec des ailes et qui atterrit sur un petit bateau vert et il fait tof, tof, tof et il arrive à Bénarès. Enfin, en général, il ne faut pas donner de nom géographique. Il ne faut pas donner de repères.
Parce que là, ça commence trop...
Voilà, trop dans le...
Ça reste ouvert.
Voilà, ça il faut, oui, c'est très ouvert. Voilà. Donc voilà, et ensuite, eh bien, on passe au corps de lumière. Le corps de lumière, c'est Turiya, c'est le dernier là. Et donc, dans le yoga nidra, vous avez la possibilité de rentrer dans le corps de lumière, puisque ça en fait partie. Yoga Nidra, vous y êtes aussi.
Voilà. Hein? Et tu, attends, excuse-moi, le corps de lumière, là, tu nous y as invité.
Ah bah oui. Vous y êtes rentré?
Mais je ne sais pas.
Je ne peux pas savoir pour toi.
Non, mais je veux dire, il n'y a pas, t'as pas conclu par quelque chose qui nous emmène.
Ah ben, donc, j'ai conclu avec la résolution. On dit trois fois à nouveau.
Ah oui, mais donc comment tu sais si tu es dans le tourien?
Ah ben, je ne sais pas moi.
C'est toi qui vis ton expérience.
Je ne suis pas dans ton cerveau.
C'est toi qui vis l'expérience.
C'est quoi la question?
C'est comment tu nous amènes?
Touria, c'est. Non, mais attends, c'est la définition.
C'est le super conscient.
C'est-à-dire que tu es à la fois conscient que tu es toi et que tu es dans un état.
Conscient,
oui,
sans penser.
Tu es toi et sans penser.
Oui. Sans penser?
Oui.
Mais quand tu nous emmènes dans les rêves, là, dans le symbolique et tout,
vous êtes
pensé, là.
Eh bien oui, mais il y a encore la symbolisation, oui, il y a encore des pensées. Petit à petit,
vu que tu parles tout le temps,
et alors?
Oui, mais toi, ça t'amène à un état qui peut te faire atteindre Touria. Alors, c'est pas garanti, c'est très rare même.
Ah, voilà, rassure-toi, il y a un truc qui m'échappait.
Oui, merci Myriam.
Voilà, d'accord. Ça peut t'amener à ça.
D'accord.
Et c'est comme un état de grâce quelque part.
C'est ça.
C'est un état, enfin nous on dirait la grâce.
Oui.
Donc, pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, tout à fait, c'est vrai.
Tu vois, donc c'est pas tous les jours. Si ça t'arrive une fois, c'est vrai, c'est une expérience qui est tellement scotchante que tu te dis, c'est possible, on peut vivre cet état-là.
Mais c'est vrai que quand on sort de Yoga Nidra, on est proche de cet état et on vibre.
Exactement.
En tout cas, on est vraiment préparé à la méditation.
Exactement.
Parce que là, que la méditation juste après est bien plus sans penser
et voilà
que quand je m'assois comme ça.
Et voilà, exactement, ça a tout gommé. Sans penser, c'est tout rien.
Ça t'a préparé.
Parce que tu sais que qui tu es, mais tu es sans penser. Tu y es.
Mais j'ai l'impression que j'y étais quand je me suis réassise.
Oui.
Pas quand j'étais à port couché.
Oui, c'est pour ça que je vous fais asseoir. Mais il y a des personnes qui préfèrent rester allongées parce qu'il y a une expérience qu'elles veulent continuer en conscience. Donc c'est pour ça que je donne cette possibilité de choisir sa position après. Alors, un petit peu sur l'équanimité, ça vous va?
Il y a un maître,
oui.
Alexandre Julien.
Ah oui,
il en parle très très bien.
Ah.
Il dit, il était venu à Montpellier faire une conférence.
Ah.
Il prend le train, il est à la gare de Lyon, il change à la gare de Lyon, puis comme il marche un peu difficilement, il y a tout le monde qui le regarde de travers, qui lui... vraiment, il se sent qu'il gêne tout le monde et il est pas bien. Et puis, il continue à marcher quand même, puis à monter dans le train. Il s'assoit dans le train. Et puis, il y a sa voisine qui reconnaît « Ah, monsieur Julien, vous êtes formidable, j'ai lu tous vos livres et tout ça. » Et il reste comme ça. Et il dit « Voilà, j'ai fait ma petite classe d'équanimité en passant, en gardant le même état d'esprit que tout le monde, que je gêne tout le monde et que tout le monde me méprise ou que cette dame m'encense juste... »
Sur un piédestal, exactement. Voilà, hein. Donc, le fait qu'il soit resté équanime et qu'il ne s'est pas laissé emporter ni d'un côté ni de l'autre, ça, c'est magnifique. Oui, très bien. Très bien. Donc, par exemple, alors, pour l'équanimité entre le plaisir et la douleur, prendre plaisir mais ne pas chercher à le retenir. Je touche à l'équanimité comme ça. Quand il s'estompe ce plaisir, ne pas chercher à le retenir. Rester ouvert à ce que le moment présent apporte. On résiste au changement, on a peur de lâcher prise. On s'accroche à nos amis jusqu'à l'étouffement parfois. On est à la recherche de plaisirs hédonistes. le seuil à atteindre est de plus en plus élevé. Hein? Quand on veut un verre de bière, après on en veut deux, il y a une accoutumance. À tout ce qui est agréable, il y a une accoutumance. Et on s'éloigne de ce qui est douloureux. Quand on cherche le plaisir, loin de moi la douleur. C'est de plus en plus fort, jusqu'à fermer notre univers dans des phobies. On est esclave de notre besoin pour des expériences agréables et de notre dégoût, rejet face au désagréable. Donc c'est un esclavage d'osciller vers la recherche du plaisir. Et ce que disait une personne, je ne sais plus qui, le bonheur vient à se passer de ce dont on sait se passer. Voilà, le bonheur vient quand je sais me passer de ce dont je peux apprendre à me passer. Alors on dépasse la bipolarité des deux extrêmes. On s'extirpe des fausses croyances binaires. Et on voit au-delà. Donc, c'est des plaisirs eudémoniques.
C'est quoi,
eudémoniques ? Alors, eudémoniques, c'est des plaisirs qui ont à voir avec un registre inconditionnel. C'est-à-dire, par exemple... On peut acheter un bon lit, mais pas un sommeil, mais pas un bon sommeil. Donc, un bon sommeil, je dirais, ça ferait partie des plaisirs eudémoniques. Un bon lit, c'est plaisir hédoniste. Ce qui est étonnant dans ces plaisirs eudémoniques, c'est que ce sont eux qui apportent le bonheur. Et les plaisirs hédonistes n'apportent pas le bonheur. Les plaisirs hédonistes...
Matériel, en fait.
Pardon ?
Matériel.
Oui, c'est ça, matériel. Parce que les plaisirs hédonistes, matériels, c'est on est constamment à la recherche d'avoir plus, toujours plus.
Et redis, c'est quoi le mot ?
Hédoniste et eudémonique.
Eudémonique.
Je regarde si je trouve ce que. Il y a eu une expérience qui a été faite là-dessus. Voilà. Il y a deux sortes de bonheur. L'hédone, H-E-D-O-N-E. Les données, avec un E accent aigu.
C'est le paradis.
Non, les données, c'est le sensible et l'immédiat. Et l'eudémonia, c'est la recherche du bonheur issu de la connaissance et de la cohérence entre soi et le monde. Chacun entraîne une réponse cellulaire différente selon une étude de l'Université de Californie. La psychologue Barbara Fredrickson, elle explique qu'un bonheur eudémonique lié à un objectif de réalisation personnelle et qui donne un sens noble à la vie aura des bénéfices pour la santé de nos cellules. Alors que la recherche d'un bonheur hédoniste, comme une deuxième glace, un troisième whisky ou une grande maison avec une piscine, peut avoir des effets négatifs et cela en dépit du bien-être éprouvé. Et on appelle ça aussi le faux bonheur. Voilà.
Mais l'exemple du lit...
Pardon ?
L'exemple du lit et du sommeil, parce que le sommeil...
Oui, alors là, j'avais pas...
Oui, t'as pas trouvé...
C'est pas un très bon exemple, c'est pour ça que j'ai arrêté.
Moi, tu parles... Si, tu peux t'acheter un super...
Non, mais d'accord, mais le sommeil, il dépend pas...
Mais c'est justement la cohérence entre soi et le monde.
Non,
oui.
C'est pas le lit qui fera forcément ton sommeil.
Oui, d'accord, mais tu commandes pas au sommeil.
Dans cette recherche, ils ont parlé de, par exemple, la différence entre carrière.
Entre eux
Carrière.
La carrière.
Le job.
Une carrière, un travail.
Et satisfaction de ton travail.
D'accord. Oui, mais ça, c'est un choix. Alors que le sommeil.
Cohérence entre le soin, suivez la société, c'est aussi le choix.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le sommeil ou la santé, c'est pas obligatoirement des choses que tu choisis.
C'est-à-dire que les plaisirs hédonistes, on peut les acheter, mais les plaisirs démoniques, on ne peut pas les acheter. C'est ça la différence.
C'est matériel.
C'est très très cher.
Oui, c'est pas pour autant que tu vas bien dormir.
Voilà, ouais. Tu ne vas pas acheter ton sommeil.
Tiens, le voilà le poème.
Ça peut aider, mais...
Alors que tu peux avoir une paillasse, mais si tu as vraiment fait un travail, tu as fait ton yoga nidra avant, tu vas dormir.
C'est super sur la paillasse. Alors, c'est un poème chinois. L'argent peut acheter une maison, mais pas un foyer.
Voilà.
Il peut acheter un lit, mais pas le sommeil. Il peut acheter une horloge, mais pas le temps. Il peut acheter un livre, mais pas la connaissance. Il peut acheter une position, mais pas le respect. Il peut payer le médecin, mais pas la santé. Il peut acheter du sang, mais pas la vie. Et il peut acheter du sexe, mais pas l'amour.
Voilà, l'argent, c'est pas le bonheur.
Eh oui, voilà, c'est ça. Hein. Donc, bon. Alors... Donc, voilà ce qu'il s'agit de comprendre entre le plaisir et la douleur. Hein. La douleur, pour la douleur, on essaye d'arrêter le parasitage constant des réactions face à ce qui est agréable, désagréable ou neutre, comme un baromètre. Si on trouve que on est, par exemple, mal assis, mais qu'il y a un beau ciel, un soleil, on est devant des rochers de l'Himalaya, eh bien, on oublie l'assise qui est désagréable et on regarde la beauté du paysage. Et donc, ça, c'est eudémonique, dans un sens. Et c'est-à-dire que là... On n'est plus arrêté par ce parasitage constant de réaction face à quelque chose qui est désagréable.
C'est le confort et l'inconfort.
Voilà, confort et l'inconfort, c'est ça. Hein. Plaisir et la douleur, ça en fait partie, quoi. On apprend à prendre contrôle de soi indépendamment des situations. On apprend à sortir de son conditionnement. C'est ce qui arrive ici. Ici, on vous sort de votre conditionnement.
Ah oui, c'est fait pour. Hein ? La zone de confort.
Voilà. On l'a enlevé.
Anesthésie totalement et qui vous met le corps, le mental dans un état totalement ankylosé, quoi.
Et oui.
Et bien justement, c'est en sortant de cette zone de confort que ça va permettre de réactiver certaines choses.
Oui.
Qui sont totalement endormies par le confort qui est trop lénifiant, aseptisant et puis qui fait perdre énormément de capacités sensorielles, donc cognitives, j'irais plus loin même au niveau de l'immunité, les appartements toujours chauffés à la même température.
Oui.
Tout ça. C'est bien de sentir le chaud, c'est bien de sentir le froid, c'est bien d'aller au fond de ses limites pour aller justement, hop, stimuler quelque chose à l'intérieur de soi. Et ça, c'est très bon pour l'immunité. Et c'est ça qui est intéressant, sortir de sa zone de confort.
Voilà.
Et ça, garder c'est... l'équilibre.
Oui.
Garder l'équilibre.
Ah non, on ne raisonne pas comme ça. Ça n'a pas place à ça. Parce que c'est quoi l'équilibre? C'est l'équilibre que tu connais dans ta zone de confort. C'est...
Ce dont parle Catherine, c'est l'équilibre dans ta réaction. C'est-à-dire que tu n'as plus une réaction aussi forte ni d'un côté ni de l'autre. Tu trouves le juste milieu, c'est ça dont tu parles. Tu vois ?
Oui.
C'est ça l'équanimité.
On parlait de la zone de confort.
Oui.
C'est-à-dire de sortir de la zone de confort. L'intérêt qu'il y a de sortir de la zone de
oui,
confort.
C'est ça, oui,
c'est ça. C'est juste ça.
C'est la désensitivation. une dernière chose, à voir que le vrai bonheur n'a pas de cause. Il est associé à l'aisance de ne plus être dépendant des conditions. Le vrai bonheur. Eh bien, donc, le vrai bonheur n'a pas de cause. Il est associé à l'aisance de ne plus être dépendant des conditions. Voilà. J'en dirai pas plus, je continuerai demain si vous voulez. Il y a beaucoup, j'ai encore deux pages. J'en ai fait qu'une sur l'équanimité, mais c'est suffisant. Voilà, merci. Je vais teinter la clochette. Mais le yoga nidra, donc, nous aide à vivre l'équanimité.